Les par actualité. Bienvenue à l'émission Les Paractualités du 23 octobre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne et en manchette aujourd'hui, aide financière en péril pour les diabétiques. L'athlète paralympique Joël Rivard inspire les élèves de l'école de Normandie. Épuisement professionnel au Centre de la jeunesse de la Côte-Nord. Agrandissement de 12 millions de dollars pour la maison Olivier à Shawinigan. Aussi, une tablette veut faciliter l'intégration des aveugles au monde des voyants. Un jeune autiste de Bathurst s'épanouit sur le marché du travail. En entrevue, Francis Jacob, alias Friends Barbier de Rouyn-Noranda, et Maxime Gagnon, directeur de défi sportif Altergo. Aide financière en péril pour les diabétiques, c'est une nouvelle prise sur le site de TVA Nouvelles. Le Parti conservateur du Canada s'est joint à Diabète Canada pour dénoncer le fait que de plus en plus de diabétiques n'aient plus droit au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Selon Diabète Canada, l'Agence du revenu a refusé sans preuve ce crédit d'impôt à des citoyens atteints du diabète du type 1 parce que leur thérapie n'aurait pas atteint la barre des 14 heures par semaine, même si leur médecin prétend le contraire. Ce gouvernement cible les personnes vulnérables souffrant de diabète avec une augmentation d'impôts de milliers de dollars. Notre message au premier ministre est simple, respecter la loi et les certifications des médecins qui prouvent que ces personnes sont admissibles en vertu des règles, a déclaré le député conservateur Pierre Poilievre dimanche par communiqué. De son côté, le bureau de la ministre du Revenu national affirme avoir entendu les préoccupations des diabétiques. Il dit également vouloir assurer un suivi auprès de l'Agence du revenu du Canada. Avoir le diabète, c'est prendre beaucoup de temps en rendez-vous chez le médecin de famille ou chez un endocrinologue, comme l'explique Claudia Hull, atteinte du diabète de type 1. Chaque mois, Mme Hull doit débourser au moins 400 $ pour ses pompes à insuline et autres médicaments. Le crédit d'impôt peut leur permettre parfois d'économiser des milliers de dollars par année, mais les règles seraient plus sévères. Plus de 250 000 Canadiens souffrent du diabète de type 1. L'athlète paralympique Joël Rivard inspire les élèves de l'école de Normandie sur le site lecourrierdusud.ca. L'athlète paralympique Joël Rivard a visité l'école de Normandie à Longueuil et rencontré les élèves de sixième année qui ont par la suite écrit des articles sur la conférence de cet athlète. Voici un de ses textes écrits par Coralie, Loan et Raphaël. Madame Rivard est née avec des malformations à ses membres, bras et jambes. Depuis son jeune âge, elle subit des opérations et apprend à vivre ainsi. D'ailleurs, les médecins étaient persuadés qu'elle ne pourrait jamais marcher. Finalement, ils ont eu tort car la petite Joëlle a réussi à marcher à 18 mois. À l'âge de 5 ans, elle décide de faire du patinage artistique pour ressembler aux autres petites filles de son âge et pour faire des spectacles. Malgré les difficultés rencontrées en raison de son handicap, elle persévère et après 72 semaines, elle réussit finalement à faire le tour de la patinoire. Quelques années plus tard, son médecin lui annonce qu'elle doit cesser le patinage artistique, sinon, à l'âge de 20 ans, elle ne pourrait plus marcher. À 16 ans, elle accompagne une amie à son entraînement de natation. Des gradins, elle trouve ce sport vraiment ennuyant. Cependant, son amie insiste pour qu'elle essaie la natation. Ce qu'il fit, et elle tombe en amour avec ce sport, surtout en raison du sentiment de liberté qu'elle éprouve dans l'eau. En 1996, elle a participé aux Jeux paralympiques à Atlanta. Au cours de ces Jeux, elle a battu des records et gagné des médailles. Les élèves ont été impressionnés par son désir de leur faire comprendre de nombreuses choses utiles pour développer sa confiance en soi et par sa générosité à partager ses expériences. Des moments de la présentation ont été très émouvants. Une élève du groupe 602 a rapporté qu'elle avait compris que, peu importe nos différences, nous devons rester nous-mêmes et que si tout le monde était pareil, la vie serait ennuyeuse. Merci, Madame Rivard. Et on se transporte maintenant à Rouyn-Noranda pour parler avec Francis Jacob, alias Friends Barbier à Rouyn-Noranda. Bonjour, Monsieur Jacob.
Bonjour, Hélène, ça va bien?
Ben oui, vous?
Ben oui, ça va très bien, merci beaucoup.
Ça va vite pour vous?
Oui, depuis un mois.
Oui. Alors, est-ce que je vous appelle Francis ou Friends?
Ce que tu veux, tu peux dire Friends.
Oui.
C'est ça qui tourne, en fait, c'est correct.
Bon, ben c'est parfait. Alors, Friends, vous avez... connu une espèce de popularité presque instantanée. Pour les gens à la maison, peut-être qu'ils l'ont vu, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu, mais je pense qu'ils l'auraient vu ou en tout cas entendu parler.
Oui, j'imagine, oui.
Il y a une photo de vous en train de couper les cheveux d'un jeune garçon autiste. Vous êtes allongé sur le sol de votre salon de coiffure ou en tout cas de votre salon.
Oui.
Oui. Et puis cette photo va vous mener au Parlement canadien mercredi. Alors, merci de prendre un petit peu de temps pour nous parler, parce que tout va vite pour vous, vous êtes très sollicité. Alors, dans quel contexte la photo a été prise?
Wyatt est un petit garçon de 7 ans que je reçois au salon depuis les premières heures du salon, en fait, depuis 2 ans. Sa mère, Fauve, une petite punkette ici de Rouyn, est venue m'expliquer que c'était difficile de faire couper les cheveux à son enfant.
Oui.
Et elle m'a demandé si j'étais prêt à relever le défi. Et,
c'est une première pour vous?
Oui,
oui,
oui, oui, j'avais aucune connaissance de ce monde-là. C'était mon premier contact avec ces enfants-là. Mm-hmm. J'ai réussi à faire la coupe à Wyatt. Le mot s'est promené dans la ville que j'étais capable de gérer des enfants spéciaux, comprenez.
Oui. Oui.
Puis le mot s'est passé, puis j'en ai plusieurs depuis là.
Et puis, quel genre de relation vous établissez avec les enfants atteints d'autisme?
Ce que je fais, c'est que j'essaie d'établir un lien de confiance. T'sais, moi, j'ai aucune formation.
Instinctif.
Des essais et des erreurs. Oui, c'est instinctif.
Oui.
Il faut comprendre aussi que le salon est un univers en soi. T'sais, les jeunes qui rentrent ici sont beaucoup, beaucoup sollicités. Il y a beaucoup d'objets sur les murs. Il y a beaucoup de trucs à regarder. J'ai un comptoir à bonbons qui fait quasiment 5 pieds de large. Les jeunes sont beaucoup sollicités. T'sais. Mais moi, je les prends, je laisse le parent derrière. Puis, je m'acclimate aux jeunes, tout simplement. Si l'enfant ne veut pas une coupe en partant, par contre, moi, j'embarque pas.
Non, d'accord.
Il faut que l'enfant désire avoir... Il faut qu'il comprenne qu'on va lui couper les cheveux. Mais ceci dit...
Est-ce que vous utilisez vos bonbons pour les convaincre?
Entre autres.
D'accord.
S'ils veulent mettre de la musique, on peut mettre de la musique en vinyle. Habituellement, on fait le tour du salon puis on regarde tous les objets. Je les prends par la main. J'essaie de... Tu sais, je m'acclimate à eux.
Oui, oui, oui. Vous êtes très à l'écoute.
Ben, tu sais, c'est des moments... Tu sais, je peux pas les faire pendant le jour parce que, tu sais, il faut comprendre que, prime abord, mon salon est toujours plein. J'ai toujours du monde au salon.
Ah oui?
Ben, tu sais, ces enfants-là, au travers, je peux pas les incorporer à cause qu'il y a du monde. La musique est forte. T'sais, on fait jouer du punk souvent.
Mm-hmm.
C'est fort, c'est bruyant, c'est... Bon, c'est tout ça, tu sais. Mais ces enfants-là, je les passe en fin de journée dans un environnement plus calme. Ils peuvent mettre de la musique s'ils veulent. Ils se prennent des bonbons s'ils veulent. Mais, tu sais, c'est...
Oh oui. Est-ce que c'est vous qui avez demandé de publier la photo sur Facebook?
Aucunement.
Non?
Aucunement. C'est Fauve, la mère à Wyatt, qui l'a publié le 24 septembre. Puis moi, j'étais juste content, tu sais, de voir la photo parce que ça avait été un beau moment. Tu sais, tous ces enfants-là qui viennent ici, il n'y a jamais de cris, jamais de pleurs, jamais de larmes. Tu sais, c'est toujours des beaux moments. Puis ça donne toujours un repos pendant une heure aux parents. Tu sais, quand moi, je prends l'enfant à ma charge, si tu veux, puis
oui,
je m'en occupe dans le salon, tu sais, tu comprends? Fait que... T'sais, ça va être un beau moment. Fauve l'a posté.
Vous étiez à l'aise là, de publier ça.
Oui, mais moi, j'étais satisfait avec ça. Mm-hmm. Ça va être un beau moment.
Oui, 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 certainement. Mais un beau moment qui est devenu pas privé du tout.
Écoute, j'ai arrêté de compter le 2 octobre, puis on était autour de 1,4 million de
vues. Hey, c'est vraiment impressionnant.
Ça, Après ça, ça a juste été des entrevues là, jusqu'à aujourd'hui.
Oui. Et Franz, pourquoi vous allez au Parlement canadien le 25 octobre? C'est bientôt, là, ça, c'est après-demain,
Oui,
mercredi,
on
ouais.
part demain. J'ai été invité par Madame la sénatrice, Madame Miger.
Oui.
Puis j'ai été invité dans le cadre du mois sur la sensibilisation sur l'autisme au pays. Il y a une allocution qui va être faite mercredi à 14 h dans le Parlement et Madame la sénatrice va expliquer, semble-t-il, ce que j'ai fait ici et la répercussion que ça a eu au niveau planétaire.
Wow.
C'est ça qui va être expliqué en Chambre des communes. Ouais.
OK. Est-ce que ça vous énerve? Est-ce que ça que comment vous réagissez à
Ben,
cet événement-là?
je suis surpris premièrement parce que, tu sais, j'en demandais pas autant. Moi,
Oui.
j'ai juste fait ma job de barbier avec le petit gars, là. T'sais,
Est-ce que ça a
on
fait
va.
naître chez vous, Friends, une vocation d'ambassadeur pour les enfants autistes, pensez-vous?
Ben, si j'ai une cause sociale à supporter, si j'ai une raison sociale à donner à mon salon, c'est sûr que ça va être ça.
Ah oui.
Oui. J'ai déjà la réputation d'avoir une facilité avec les enfants, comme ça. Fait que j'ai aucun problème à endosser un dossier comme ça si on me l'offre. Mais je le fais déjà, tu sais. Fait que.
Oui, c'est déjà bien parti.
Oui, exactement.
Et quelle est l'adresse de votre salon?
Je suis au 147 rue principale à Rouyn-Noranda. Je suis au deuxième étage. On ne prend pas de rendez-vous. C'est un barbershop à l'ancienne. On fait que des coupes classiques.
Oh, wow.
Tout
Alors,
pour
Francis
déranger.
Jacob, alias. Pardon?
Tout pour déranger.
Tout pour faire parler de vous, mais de la très bonne manière. Alors, Franz, merci beaucoup pour cette entrevue et continuez d'être ce que vous êtes.
Merci, Hélène. J'apprécie beaucoup.
Au plaisir. Bonne chance le 25 octobre. Amusez-vous bien.
Merci beaucoup.
Bravo, bye-bye. Épuisement professionnel au Centre de la jeunesse de la Côte-Nord, le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, qui comprend entre autres le Centre jeunesse, a connu une hausse de 44% du nombre d'heures payées en assurance salaire pour l'année 2015-2016. L'organisme est passé de 28 000 heures à plus de 40 000 heures en l'espace d'un an. En comparaison, selon les chiffres du ministère de la Santé, les centres jeunesse de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent ont comptabilisé près de 17 000 heures de congés maladie chacun l'an dernier. Du côté de la CSN, qui représente les agents d'intervention, le personnel de soutien et les préposés aux bénéficiaires, on remarque des difficultés de recrutement et l'épuisement professionnel du personnel en place. Depuis 3 ans, pourtant, les statistiques semblaient démontrer une tendance à la baisse en ce qui concerne les arrêts de travail pour cause de maladie au Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord. Agrandissement de 12 millions de dollars pour la maison Olivier à Shawinigan, c'est dans l'hebdo saintmaurice.com. La maison Olivier Shawinigan annonce un investissement de 12 millions qui permettra la construction de 97 nouvelles unités destinées aux aînés avec des troubles cognitifs tels que l'Alzheimer pour un total de 149 chambres. Dès juin 2018, la construction viendra s'annexer au bâtiment existant, soit celui de l'ancienne résidence d'Ami. Sur 2 étages, le nouveau bâtiment, érigé dans un coin paisible de l'avenue Dorion à Shawinigan, sera divisé en différentes ailes dédiées à la déficience physique, aux soins post-hospitaliers ou aux usagers présentant des troubles cognitifs. Le souci de la maison Olivier est d'aider les gens à maintenir, améliorer ou retrouver leur autonomie, tout en leur assurant confort, sécurité et qualité de vie dans la communauté dans laquelle ils sont intégrés, indique la directrice générale Jeannick Lemoine. La résidence, qui fait l'objet d'une entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-Centre du Québec, compte également réserver 34 unités pour une clientèle privée. Avec ce projet, le nombre d'employés passera de 42 à 125. Madame Lemoine indique que c'est devant la demande grandissante pour ce type de service que cet agrandissement était nécessaire. Et je parle maintenant avec Maxime Gagnon, directeur de défi sportif Altergo, pour parler principalement du championnat de zone panaméricain de volleyball assis qui aura lieu très bientôt. Bonjour, Monsieur Gagnon.
Bonjour.
Alors, est-ce que c'est une première édition, ce qui concerne le championnat de zone panaméricain?
Oui, c'est la première fois et c'est la première fois que ça se tient à Montréal.
Ah oui?
Ça fait plusieurs années que le championnat panaméricain existe, mm-hmm. Il se promène dans le continent Amérique,
oui.
Mais c'est la première fois qu'il y a lieu à Montréal.
Comment ça fonctionne, le championnat de zone panaméricain de volleyball assis?
Habituellement, c'est des candidatures qu'on doit déposer. Et nous, on nous a appelés parce que les deux villes qui étaient en candidature se sont retirées.
Ah.
Et la Fédération internationale avait entendu parler d'une organisation à Montréal qui était récurrente. Et de là, ils nous ont appelés et ils nous ont demandé si on pouvait les dépanner.
Et vous avez dit oui.
Et on a dit oui. Alors, c'est quelque chose qu'on voulait faire dans l'organisation au niveau de chez Altergo, de tenir un événement au mois de septembre, octobre, novembre, mm-hmm. Dans le but de faire d'autres événements que celui de défi sportif Altergo.
Qui se déroule au printemps.
Qui se déroule au printemps, fin avril, c'est exact. Mm-hmm. Mais de là, on s'est dit, ben pourquoi pas mettre l'équipe au complet pour un seul sport, comparativement au défi sportif où on joue entre 13 et 17 sports selon les années. Donc, ça occupe aussi les employés 12 mois par année pour certains.
Oui.
C'est ce qui est intéressant aussi. Et on va relever ce défi-là. On est déjà en montage aujourd'hui. Les premiers athlètes délégués techniques arrivent aujourd'hui. Donc, on est bien contents.
Oui, bien tant mieux. Et de quelle façon le Canada, voire le Québec vont être représentés? Est-ce qu'il va y avoir des équipes féminines et masculines pour nous représenter?
Au niveau du Canada, oui, on a des équipes masculines et féminines dans les deux catégories. On a le Brésil et les États-Unis qui sont dans les deux catégories. Et du côté des hommes, il y a une équipe du Costa Rica, ce qui fait qu'on a 4 pays chez les hommes et 3 pays chez les femmes. Du côté québécois, malheureusement, depuis que José Rebello s'est retiré l'an dernier, on n'a pas d'athlètes québécois. Et c'est le but de faire revenir ce championnat-là à Montréal, de créer une effervescence.
Oui.
Si on veut. Alors, c'est ce qu'on veut. On va faire différentes démonstrations, des essais le 27 et le 28 octobre prochain, après les matchs. Mm-hmm. Les gens vont pouvoir venir essayer. On va faire des essais avec inviter des centres de réadaptation, des centres de jeunes pour venir essayer le setting volleyball. C'est le but de retrouver des athlètes québécois, tant féminins que masculins.
D'accord. Vous dites le setting volleyball et non le volleyball assis.
Oui, désolé. On parle vraiment du volleyball assis. Oui.
Oui. Qu'est-ce qui distingue justement le volleyball assis au volleyball traditionnel? À part du fait que vous êtes assis, ouais.
Donc, on doit toujours être en contact avec le sol lorsqu'on va toucher au ballon. Tu peux te déplacer puis te déplacer un petit peu en levant un minimum tes fesses du sol,
mm-hmm.
Mais sinon, tu dois être toujours en contact avec le sol lorsque tu vas toucher le ballon. Donc, lorsque tu vas faire un smash ou une touche ou un retour, tu dois être en contact avec le sol. Ça joue sur un terrain d'environ grandeur badminton, si on veut.
Ah oui.
Et le filet est d'environ 3 pieds de haut maximum.
Oh.
Mais je vous dirais que ça vient assez vite. Les ballons, les services, les smashs, c'est quand même très rapide. Et pour l'avoir essayé à quelques occasions, il faut être en forme et avoir des réflexes aiguisés.
Ah oui?
C'est un sport qui est dédié principalement aux personnes amputées.
Ah bon, d'accord.
Je vous dirais, c'est la clientèle favorable pour ça. Souvent, on va avoir des gens qui sont paraplégiques, mais vont avoir leurs abdominaux. Mais principalement, ceux qui jouent à haut niveau, c'est les gens qui sont amputés. Mm-hmm.
Et quelle est la moyenne d'âge de ceux qui jouent?
Je vous dirais que c'est d'environ 25-35. Ça joue là-dedans environ. Là.
Oui.
Oui.
Alors, ça va se dérouler, ce championnat de zone panaméricain de volleyball assis, du 26 au 29 octobre. C'est au centre Claude Robillard. Comment ça va se passer? Complexe Claude Robillard, la programmation, l'horaire, donnez-nous une idée de...
Oui, alors ça se passe au complexe sportif Claude Robillard dans l'Omnisport, la grande salle d'athlétisme. Et les compétitions commencent le jeudi, mm-hmm. à 9h. Et à chaque jour, là, entre 9h et 10h, les premiers matchs ont lieu. On a des matchs à 18h jeudi et vendredi. Sinon, dans la journée, il y a des matchs là. C'est des matchs qui durent environ 1h30. Donc, on invite les gens à venir voir ça. Le 27 et le 28, les gens vont pouvoir venir essayer après les matchs de 18h. Faire des essais,
pour venir essayer
le setting volleyball. Là, ouais. Donc, les gens vont pouvoir venir essayer ça avec des joueurs qui vont être présents.
Et quand auront lieu les finales?
Les finales vont avoir lieu dimanche. 10h, c'est la médaille de bronze pour les hommes. 11h45, la médaille d'or. Et 13h30, la médaille d'or pour les femmes.
Ah bon, d'accord. Est-ce que vous avez un pronostic à faire?
Un pronostic, bien écoutez, on peut vous dire que d'entrée de jeu, le Canada, d'après moi, devrait être en bonne position. Ils ont travaillé très fort dans la dernière année parce que malheureusement, ils ont manqué leur sélection pour les derniers Jeux paralympiques de Rio. Donc, ils vont travailler très fort pour être présents parce que les deux gagnants chez les hommes ont un billet directement pour les prochains championnats du monde.
Ah oui, est-ce que cette équipe-là a un nom?
C'est l'équipe canadienne.
Ah, l'équipe canadienne, tout simplement. D'accord.
Alors, les gens représentent leur nation, leur pays. Alors, ouais. C'est l'équipe du Brésil, du Costa Rica, du Canada et des États-Unis.
Et ainsi de suite.
Oui.
Bon, bien, alors, on vous souhaite une belle fin de semaine. Un beau premier championnat de zone panaméricain de volleyball assis ou de sitting volleyball.
Oui. Et on vous rappelle que c'est gratuit.
Ah, bien ça, c'est encore une meilleure nouvelle.
Donc, c'est gratuit. Le complexe sportif Claude-Rivière est accessible universellement quand même très bien. Ils font de gros progrès à chaque année pour rendre ce complexe-là accessible universellement. Donc, venez nous voir, ça va nous faire plaisir.
Oui, du 26 au 29 octobre, on sera au rendez-vous. Tout le monde est invité?
Oui, tout le monde, les petits comme les grands.
Merci beaucoup, Maxime Gagnon,
au plaisir,
directeur de Défi sportif Altergo. Bonne journée, au plaisir.
Merci.
Un jeune autiste de Bathurst, dis-je bien, s'épanouit sur le marché du travail. C'est sur le site de Radio-Canada. Une conseillère municipale de Bathurst souhaite lancer un projet pilote qui vise à faciliter l'insertion sur le marché du travail de jeunes adultes autistes de la région. Kim Chamberlain travaille de près avec un organisme national qui porte le nom de Prêt, disponible et capable. Le programme est financé par le gouvernement fédéral sur une période de 3 ans. Il a comme objectif d'augmenter le nombre de personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sur le marché de l'emploi. Même si le projet pilote n'est pas officiellement en marche, Kim Chamberlain a aidé l'an passé un jeune autiste de la région à se trouver un emploi à temps partiel. Justin Guittard, âgé de 22 ans, travaille depuis un peu plus d'un an comme aide-boulanger, une vingtaine d'heures par semaine dans un restaurant Tim Hortons de Bathurst. Il a cherché du travail sans succès pendant près de 3 ans après avoir terminé ses études secondaires à Bathurst High School. Sa mère, Gail Guittard, dit qu'elle avait pendant cette période des tendances dépressives. Mais depuis que son fils dit qu'il avait, pardon, on parle de son fils, qu'il avait pendant cette période des tendances dépressives. Mais depuis que son fils occupe un emploi, elle note de grands changements. Beaucoup plus indépendant, capable de parler aux étrangers, de regarder les gens dans les yeux, il est beaucoup plus heureux. Quand il a besoin de quelque chose, il n'a pas besoin de venir voir papa et maman pour avoir de l'argent. Il est capable de le faire lui-même, il s'est fait un budget. Justin, lui, est plus que content d'avoir un emploi comme la majorité des gens. Un dispositif innovant pour fauteuils roulants primé au concours de l'innovation SOFMER. Une équipe des hôpitaux universitaires de Genève a remporté un prix au concours de l'innovation de la Société française de médecine physique et de réadaptation SOFMER, avec son système d'aide à la propulsion en fauteuil roulant manuel par restitution d'énergie emmagasinée. C'est sur le site agefi.com. Le projet innovant de système d'aide à la propulsion en fauteuil roulant manuel conduit par Stéphane Armand, a remporté le prix de développement durable. En Suisse, environ 60 000 personnes se déplacent en fauteuil roulant, dont 90 % en fauteuil manuel, ce qui représente un effort considérable, au point que les muscles impliqués dans la production de ces mouvements répétés finissent par en souffrir, avec pour conséquence des troubles musculo-squelettiques douloureux et invalidants. Pour soulager le stress musculaire des personnes en fauteuil roulant tout en leur permettant de conserver une activité physique, Stéphane Armand et son équipe ont longuement travaillé sur un dispositif mécanique doté d'un puissant ressort qui permet de stocker l'énergie et de la restituer, un peu sur le principe des petites voitures à friction avec lesquelles aiment jouer les enfants. Ce système de propulsion est un mécanisme simple et léger. Il est adaptable sur tout fauteuil manuel auquel il suffira de changer les roues. Grâce à cette invention, les personnes en fauteuil roulant pourront se déplacer plus confortablement et à moindre effort, réduisant ainsi les troubles associés. Un prototype du fauteuil a pu être créé et le brevet déposé en 2013. Depuis, Stéphane Armand et son équipe cherchent des collaborateurs industriels afin de commercialiser leur projet. Déjeuner de l'accessibilité avec les candidats à la mairie de Laval, une occasion exceptionnelle de discuter de l'accessibilité des personnes handicapées à Laval avec les représentants des principaux partis politiques municipaux de Laval. Citoyens, organismes, membres et partenaires du ROPP ou R-O-P-P-H-L, soyez présents et faites entendre vos voix. Alors, l'inscription est gratuite au ropphl.org. Et il faut s'inscrire avant le 30 octobre. L'événement a lieu le mardi 31 octobre de 8h30 à 11h en matinée au pavillon du Bois Papineau à la salle 009. Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne. Pour terminer, une nouvelle régionale, mais qui intéresse tout le monde. Un tragique accident qui lui a amputé l'avant-bras droit en 1999 n'a pas empêché Maurice Dallaire de graduer comme ceinture noire 7e Dan et de continuer à enseigner le karaté à Val-d'Or. Maurice Dallaire forme des karatékas dans le gymnase de l'école Sainte-Marie à Val-d'Or depuis 35 ans. Mais son destin a basculé tragiquement en 1999 lorsqu'il a subi un accident avec une machine pour émonder son terrain sur le bord de l'eau. L'homme, qui va avoir 64 ans au mois de novembre, a aussi eu une sérieuse période de tendance suicidaire où il a dû être hospitalisé. Les valeurs de concentration, de confiance et de patience prônées par le karaté ont appris à M. Dallaire à vivre avec son handicap. M. Dallaire a aussi continué à monter les échelons en karaté alors qu'il était 3e dan au moment de son accident. J'ai toujours continué le karaté, j'ai travaillé pour monter les grades, mais c'était plus difficile. Mais il lui est parfois difficile de montrer certains mouvements. J'ai dû modifier mes mouvements et il a fallu que je change complètement ma façon de penser pour enseigner. Merci à mes invités, Francis Jacob alias Franz Barbier de Rouyn-Noranda et à Maxime Gagnon, directeur de défis sportifs Alter Go. Merci à Anne-Laure Janson à la recherche, Maurice Bolduc à la technique. Ici Hélène Denis, à bientôt.